journal, Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, quand il fait trop chaud pour faire son jogging, le monde du sport sera bientôt affecté lui aussi par le réchauffement climatique. Santé des athlètes menacés, équipements sportifs à adapter. Les conclusions dans un instant d'un nouveau rapport du WWF. Du sport, il y en aura ce soir au cœur de Londres. 60 000 spectateurs au stade de Wembley pour la première demi-finale de l'Euro de football. Un rassemblement controversé en pleine remontée des cas de Covid. À suivre aussi, Emmanuel Macron s'est-il piégé lui-même en évoquant une possible réforme des retraites avant la fin de son mandat? Les migrants qui multiplient les traversées pendant l'été. Et pour finir, Isabelle Huppert dans la cerisée de Tchekhov, retour sur l'ouverture d'Avignon hier soir.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes à 7h50, je vous rappelle que c'est aujourd'hui le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, à l'occasion ce soir de l'ouverture de la 74e édition du festival.
France Inter.
Et un nouveau record de chaleur battu hier dans le monde, Sébastien, ça se passe là dans le grand nord de l'Europe.
Plus de 33 degrés à l'ombre tout au nord de la Finlande, la température la plus chaude enregistrée depuis 1914. Après les 50 degrés ou presque atteints au Canada, l'été 2021 s'annonce encore caniculaire. Un réchauffement qui fait l'objet d'un nouveau rapport de l'ONG WWF, mais sur un aspect jusqu'ici peu connu, les conséquences des températures extrêmes sur le monde du sport, ses athlètes, ses équipements. On ne pourra plus faire d'activité physique comme avant. On va même perdre du temps de sport à l'avenir, selon le WWF qui appelle à une nécessaire adaptation des comportements. Sandy Dauphin.
Dans un monde à plus de degrés, il y aura plus de vagues de chaleur, de jours de sécheresse, de pics de pollution à l'ozone. Les Français pourraient ainsi perdre 24 jours d'activité sportive par an, d'après ce rapport, jusqu'à 2 mois dans un monde à plus 4 degrés. Les équipements sportifs aussi sont menacés, explique Arnaud Goffier, directeur des programmes au WWF.
Les clubs de voile, par exemple, situés en bord de mer, il y en a un quart à plus 4 degrés qu'il faut relocaliser, parce que tout simplement, ils seront sous l'eau. Les activités de ski, l'hiver ont quasiment disparu dans les Pyrénées. Dans les Alpes, c'est 80% d'enneigement en moins à 1500 mètres. Et puis, les terrains de foot sont quasiment secs tout l'été s'ils ne sont pas irrigués.
Même si le scénario du pire, un monde à 4 degrés à la fin du siècle, est évité, nous sommes déjà à plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Le monde du sport doit s'adapter, plaide ce rapport.
Courir en plein été, en plein soleil, ça va devenir de plus en plus difficile maintenant. Donc il faudra courir tôt le matin, tard le soir, plutôt l'hiver. Toutes les salles de sport en France sont très peu climatisées. Il y en a plus de 50% construites avant 1987, donc absolument pas adaptées face aux canicules.
Premier test grandeur nature, ce sera pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. La France a promis d'aligner ses JO sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat.
Sandy Dauphin, spécialiste environnement à
et
France Inter.
Oui, et là ce n'est pas la chaleur qui pose problème au monde du sport, Sébastien, ce soir, mais l'épidémie de Covid.
Oui, 60 000 spectateurs attendus pour un match de foot au stade de Wembley à Londres. Un stade plein ou presque, 75% de sa capacité. Pour la première demi-finale de l'Euro de foot, Italie-Espagne affiche alléchante, ambiance assurée. Mais à nouveau, l'inquiétude d'une remontée des cas de Covid. Pour le gouvernement, pas question, le gouvernement britannique, pas question de changer de protocole. Sauf que l'idée n'est pas du goût de tout le monde en Europe. À Londres, Richard Place.
Angela Merkel ne s'était pas gênée pour marquer sa désapprobation. C'était il y a 4 jours, à quelques mètres de Boris Johnson. Il tenait une conférence de presse commune. Mais le Premier ministre britannique n'a pas écouté la chancelière allemande. Il ne voulait pas prendre le risque de voir l'UEFA délocaliser ses 2 demi-finales et la finale de l'Euro. Il s'appuie aussi sur l'expertise de son principal conseiller scientifique, Patrick Valence. Le risque de propagation est plus grand à l'intérieur et donc, le plus souvent, ce ne sont pas les grands rassemblements en extérieur qui posent problème. Quand les gens s'enferment dans des espaces bondés, c'est là qu'apparaît le risque de diffusion. Un argument qui ne convainc pas les sceptiques, parce que les spectateurs aujourd'hui vont emprunter les transports en commun pour venir à Wembley, des rames bondées comme on l'a vu déjà pour Angleterre-Allemagne, qui se jouait devant 40 000 personnes. Mais Boris Johnson ne dévie pas.
Mon conseil pour tout le monde, c'est évidemment de supporter l'Angleterre, avec enthousiasme, mais de manière responsable.
Voilà le credo désormais des autorités anglaises, pour l'euro comme pour les restrictions générales dans le pays, qui devraient disparaître dans un peu moins de 2 semaines. Il faut miser maintenant sur la responsabilité individuelle, plutôt que sur les restrictions collectives. Londres, Richard Place, France Inter.
Un autre pays où les chiffres du variant Delta flambent, l'Espagne. Plus de 30 000 nouveaux cas en 3 jours, un taux d'incidence de 600 pour 100 000 chez les jeunes. L'Andalousie, la Catalogne envisagent de rétablir des restrictions cette semaine. Quant à la France, lente remontée également de l'épidémie depuis près d'une semaine et la question d'une obligation vaccinale qui se précise. Les groupes parlementaires, tous favorables ou presque, doivent rendre leur avis aujourd'hui au Premier ministre. La vaccination obligatoire qui sera aussi au menu d'une réunion à l'Élysée ce matin avec les partenaires sociaux, toutes les grandes centrales syndicales et patronales conviées par Emmanuel Macron. Tour d'horizon de l'actualité avec un sujet particulièrement explosif sur la table, la réforme des retraites. Faut-il la faire ou pas dès l'automne? C'est non pour tout le monde, de la CFDT au MEDEF. Cette réforme, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a remise sur la table, mais l'idée pourrait se transformer pour lui en un piège politique, Yael Gauze.
Tout allait pour le mieux. Il avait repris son bâton de pèlerin et sur le chemin du déconfinement le 3 juin, dans le décor de cartes postales de Saint-Cyr-la-Popie, Emmanuel Macron évoque le sujet qui fâche.
Est-ce que nous pouvons ne rien faire sur la retraite dans les mois qui viennent? C'est trop tôt pour vous répondre. En tout cas, ça ne sera pas la même et rien n'est exclu.
Pas d'été en pente douce, la réforme avant même la présidentielle, une folie pour l'un des grognards de la Macronie, Richard Ferrand. Combien de ministres dubitatifs, hormis à Bercy? Après le quoi qu'il en coûte, les Français voudront savoir comment on rembourse. À travers l'arbitrage, explique un ministre, se joue la marque Macron pour 2022. Est-il encore un réformateur ou un gestionnaire de centre droit? Faire ou ne pas faire avant la campagne? Annoncer pour commencer? La réforme financière d'abord pour le salé, la réforme systémique après pour le sucré, s'interroge un conseiller. Il est dans un moment de décision très individuelle, confirme son entourage. Et pourquoi forcément les retraites? L'ADN du réformateur, plaide un secrétaire d'État. C'est aussi la proportionnelle, la réforme de l'État, des chantiers positifs comme la dépendance ou la garantie jeune universelle. Comment se sortir du dilemme? La situation épidémique pourrait fournir un joker au président, protéger contre le variant Delta et en même temps exiger des efforts, redoute un ministre, ça ne marchera pas.
Yael Gauze, début de la réunion à 11h ce matin à l'Élysée. C'est un effet traditionnel de la météo estivale. Les tentatives de traverser de la Méditerranée et de la Manche se multiplient. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'Ocean Viking, le navire de l'ONG SOS Méditerranée, a ainsi secouru 369 migrants qui venaient de Libye. Des traversées en hausse avec l'été, y compris dans le nord de la France, Rémi Brancato.
Dans le détroit du Pas-de-Calais, 125 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre ont été secourus samedi et dimanche à bord d'embarcations pneumatiques qui prennent l'eau. La météo paraît plus clémente avec l'été, mais le danger est toujours là, rappelle Marine Monjardet, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Les tentatives de traversée se font sur des périodes de fenêtres météo qui semblent plus favorables. On reste dans une zone qui est dangereuse, avec des vents souvent violents, des courants, du brouillard, des marées, des températures de l'eau très basses, avec ces risques effectivement d'hypothermie derrière.
On constate deux fois plus de tentatives de traversée que l'an passé avec l'été et l'allègement des restrictions sanitaires. En Méditerranée aussi, le nombre d'embarcations augmente et l'Ocean Viking, le navire d'SOS Méditerranée, se sent bien seul pour les secourir, regrette Fabienne Lassalle, la directrice adjointe de l'ONG.
Les navires de sauvetage sont pour nombre d'entre eux bloqués en Italie pour des raisons administratives, donc il y a très peu de navires de sauvetage, surtout en période estivale où on sait qu'ils vont tenter la traversée. Les conditions sont réunies pour annoncer un été extrêmement meurtrier en Méditerranée.
L'Organisation internationale des migrations dénombre 866 morts depuis le début de l'année dans la zone, un nombre sans doute sous-estimé.
Rémi Brancato, en bref, à l'étranger, l'armée afghane au bord de l'effondrement face aux talibans. Un millier de soldats afghans se sont mis à l'abri au Tadjikistan après des combats dans le nord-est du pays. On revient en France avec ce rapport de la contrôleure des prisons qui s'inquiète des discriminations persistantes à l'égard des détenus transgenres. 11 ans après un premier rapport, Dominique Simoneau constate que de graves atteintes, je cite, à leurs droits fondamentaux persistent encore aujourd'hui. L'Aurélie Carrive.
Faute de doctrine claire et parfois malgré la bonne volonté de personnel qui pense bien faire, les atteintes à la dignité des personnes transgenres sont récurrentes, dit le rapport. Des fouilles imposées pour identifier le sexe anatomique d'une personne, des détenus affectés dans un établissement pour hommes ou pour femmes en fonction de leur état civil, mais pas de leur genre. Véritable négation de leur identité. Impossible, par exemple, dans un quartier pour hommes, de porter des vêtements féminins ou de se procurer du maquillage. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté émet un principe simple. toute personne transgenre doit être consultée pour savoir où elle souhaite être affectée. Le rapport pointe aussi le placement trop fréquent à l'isolement, qui ne devrait être que le dernier recours, ainsi que la mauvaise formation des médecins, souvent réticents à poursuivre en prison les traitements hormonaux déjà engagés, mais dont l'interruption comporte des risques. Si les droits des personnes transgenres ne sont pas garantis, des sorties temporaires ou une remise en liberté doivent être envisagées, conclut l'avis publié aujourd'hui.
Laurélie Carrive, on termine avec une star qui remonte sur les planches à Avignon. J'ai nommé Isabelle Huppert dans La Cerisée de Tchekhov, mise en scène par le prochain patron du festival Taggio, Rodriguez. Stéphane Capron était hier soir dans la cour d'honneur du Palais des Papes.
C'est dans cette chambre d'enfant que je dormais, c'est de là que je regardais La Cerisée.
Thiago Rodriguez a conçu ce spectacle autour de la personnalité d'Isabelle Huppert. La comédienne avait très envie de travailler avec lui et le metteur en scène portugais trouvait que cette Cerisée était faite pour elle.
Pour ne pas m'éloigner trop de mes principes de travail, ma vision du théâtre, c'était de dire, alors si Tchekhov aurait écrit Lubov, est-ce qu'il l'aurait écrit pour Isabelle Huppert? Et moi, j'en suis sûr que oui. Je pense qu'il écrit avec la confiance de offrir ce texte-là à quelqu'un qui possède une grande maîtrise technique du métier d'actrice et quelqu'un qui aussi a, selon Tchekhov, une présence extraordinaire.
Isabelle Huppert sautille, trépigne comme une gamine sur scène. Elle se fond dans la troupe tonitruante et métissée que Thiago Rodriguez a composée. Et celui qui tire son épingle du jeu, c'est Adama Diop dans le rôle de Lio Paquin. Il s'affirme comme étant l'un des plus grands comédiens de la scène française. Thiago Rodriguez, qui a l'habitude d'écrire ses propres pièces, s'est permis des pas de côté avec le texte de Tchekhov en écrivant des chansons pop acidulées, mises en musique par Elder Gonzalves, des bulles d'air qui réveillent par moment un spectacle qui s'étire un peu en longueur.
Voilà, La Cerisée jusqu'au 17 juillet à Avignon, puis en tournée à l'Odéon, Clermont-Ferrand ou encore Villeurbanne. Merci Sébastien Legénie. L'édito politique à suivre.